soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue pour cette seconde émission de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui chaque semaine aborde durant 10 minutes un sujet lié aux nouvelles technologies numériques et informatiques qui font notre quotidien avec notre consentement et parfois même malgré nous. La semaine dernière, nous avons commencé à parler du stockage de nos données et de la manière dont elles sont encodées en binaire avec des 0 et des 1. Nous avons expliqué qu'elles étaient généralement stockées sur des disques durs. Aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser à ces moyens de stockage. Alors, de quoi parle-t-on ? Le terme de disque dur vous est sûrement familier, mais il est moins probable que vous sachiez à quoi cela ressemble. En effet, si vous en avez déjà eu entre les mains, cela ressemble à une boîte un peu lourde qui ne nous dit rien de son fonctionnement. En réalité, à l'intérieur se trouve un plateau tournant, le plus souvent en verre, et recouvert d'une couche magnétique. Sur cette couche, les données sont écrites en code binaire. Puis, à la manière d'un tourne-disque, ce plateau tourne et une tête de lecture le parcourt pour lire les données. Cette même tête sert également à écrire en modifiant le champ magnétique pour représenter des 1 et des 0. Le premier disque dur a été inventé par les ingénieurs d'IBM en Californie, à la fin des années 50. Sa capacité de stockage était de 5 millions de caractères encodés sur 6 bits, soit un peu moins de 5 mégaoctets. Bon, ça paraît pas énorme, mais la technologie a rapidement évolué. Avec des disques durs contenant plusieurs plateaux, plusieurs têtes de lecture-écriture, et dès les années 1990, des disques durs furent commercialisés à l'intérieur de nos ordinateurs personnels. Ces disques mécaniques ont néanmoins plusieurs inconvénients. Tout d'abord, ils sont fragiles, puisqu'il ne faut pas déplacer la tête de lecture par accident. De plus, la rotation du plateau consomme aussi beaucoup d'énergie. Toujours dans les années 90, commence à se développer une nouvelle technologie de disques électroniques, aussi appelé SSD, de l'anglais Solid State Drive. À la différence du disque tournant magnétique que l'on vient d'évoquer, ces disques n'ont pas d'éléments mécaniques mobiles, mais ils sont constitués de composants électroniques appelés semi-conducteurs. Ainsi, si vous ouvrez un disque SSD, vous ne trouverez pas de disque à l'intérieur, mais un circuit imprimé avec un ou plusieurs carrés noirs fixés dessus par des petites broches métalliques. Aujourd'hui, toutes les clés USB et smartphones fonctionnent avec la technologie SSD. On parle aussi de mémoire flash. Et de plus en plus d'ordinateurs portables également. En effet, ces disques sont moins sensibles au mouvement et au choc, et donc mieux adaptés aux appareils mobiles. Cependant, les disques électroniques sont aussi plus onéreux. Les besoins croissants d'espace de stockage et la généralisation des connexions Internet à haut débit dans tous les appareils numériques, ont entraîné le développement du stockage à distance. Cette technique est aussi appelée « cloud », en référence au terme anglais signifiant « nuage ». Pour faire simple, lorsque vous stockez une donnée comme un dossier de photos, vous utilisez une connexion Internet pour accéder à un dispositif informatique, que l'on appelle « serveur », à qui vous envoyez le dossier et qui l'enregistre sur ses propres disques durs. Le dossier n'est plus sur votre appareil, mais vous pouvez y accéder en vous connectant à ce serveur par Internet. Ainsi, votre appareil n'a pas besoin d'un gros disque dur et vous avez quand même accès à vos données. Ces services distants existent pour sauvegarder les données, mais des serveurs distants fournissent aujourd'hui des services bien plus variés. Courrier électronique, services de streaming, accès à des bases de données, etc. Mais restons sur la question spécifique du stockage de nos données dans le cloud. Alors, réfléchissons un instant. Lorsque l'on stocke ses photos de vacances ou des sauvegardes de dossiers professionnels sur son propre disque dur, on effectue une opération relativement simple. Un enregistrement de données binaires sur un disque qui se trouve à portée de main et qui nous appartient. En revanche, lorsque l'on enregistre ces mêmes données sur un serveur informatique distant, il s'agit généralement d'un contrat de service avec une entreprise privée. Et là, les choses sont alors moins simples. Évidemment, beaucoup de gens n'y voient rien de compliqué. Vous signez un contrat en cliquant sur « Valider » sur la base de conditions générales que vous ne lisez pas et vous bénéficiez du service, parfois même de manière gratuite. Mais ces contrats sont bien souvent dotés de clauses surprenantes où les fournisseurs de services se réservent le droit de presque tout faire avec vos affaires. Lire, diffuser, supprimer, perdre vos données et même vous demander des indemnités. L'excellent site Terms of Service Didn't Read, qui peut se traduire par Conditions générales je n'ai pas lu, offre de nombreux exemples. Par exemple, chez Dropbox, vous autorisez l'entreprise à accéder, sauvegarder et scanner vos documents, et vous autorisez également tous les tiers avec lesquels l'entreprise travaille à faire de même. Chez Apple iCloud, l'entreprise peut carrément supprimer vos données. Elle s'accorde le droit de déplacer, refuser, modifier et ou enlever du contenu n'importe quand, sans préavis et de manière discrétionnaire. Chez Cloudant, l'entreprise se dégage de toute responsabilité en cas de perte des données en lien avec le fonctionnement du service. Pour les services de Google, comme par exemple Google Drive, la licence accordée à Google sur le contenu chargé sur leur service continuera même si vous arrêtez d'utiliser les services. Enfin, chez SoundCloud, je cite, « Vous acceptez d'indemniser SoundCloud pour toutes les plaintes de tiers pour infraction au droit d'auteur ou violation de la vie privée en lien avec votre contenu. » Bon, on va s'arrêter là avec des exemples. Mais au-delà de ces questions contractuelles, la plupart de ces services ne disent jamais dans quel endroit du globe sont stockées vos données. Or, si vos photos de vacances sont stockées aux États-Unis, par exemple, elles sont soumises à la réglementation de ce pays, qui, sans rentrer dans les détails, est nettement moins protectrice qu'en Europe. Enfin, les données collectées par ces entreprises de stockage distant ne sont pas simplement celles qu'elles lisent sur les documents que vous stockez. Toutes les actions faites sur leur disque dur sont enregistrées. Vos heures et fréquences de connexion, les modifications, votre localisation, le type d'appareil que vous utilisez, et même les personnes de votre entourage avec lesquelles vous pouvez partager ces données. Nous reviendrons plus spécifiquement sur l'enjeu de ces métadonnées au cours d'une autre émission, mais il faut comprendre que ce n'est pas anodin. Et nous, dans tout ça ? Eh bien, comme vous pouvez le constater, il est relativement facile et pratique de stocker des données sur le cloud. Mais il est difficile de savoir à quoi on s'expose. En effet, le marché des données numériques, qui est estimé à plus de 4000 milliards d'euros, fonde largement sa rentabilité sur notre consentement à facilement offrir nos données, mais ce que font les entreprises avec ce que nous leur confions est relativement opaque. Que faire alors de notre côté ? Premièrement, sauvegarder ces données régulièrement est une pratique de bon sens, à laquelle peut s'ajouter le fait de faire plusieurs sauvegardes pour limiter les risques de perte. Si l'on souhaite un service distant fiable, le plus efficace consiste à avoir son propre serveur, mais cela requiert une certaine expertise technique. Une solution plus simple pour protéger ces données stockées en ligne est le chiffrement. Il existe aujourd'hui un grand nombre de techniques pour chiffrer ces informations qui deviennent alors illisibles, sauf si l'on possède le mot de passe correspondant. Sur le cloud, le contenu de mes documents professionnels chiffrés est ainsi protégé de toute utilisation par des tiers non désirés. Nous consacrerons une future émission à cette question du chiffrement, mais en attendant, le conseil minimal que je peux vous donner, c'est de ne pas stocker de données sensibles sur le cloud. Pour sauvegarder vos photos de vacances au Cap d'Agde, il reste encore votre bon vieux disque dur.